Français?
À manger?
L'akl.
Da mangiare?
Khawam afur fi fa ya baf.
Eh bien, on est content de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour écouter la nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre. Et on est content de retrouver Roselyne, qui très sagement, sous son casque, maîtrise toutes les touches du pupitre. Et Abim, bonjour à
bonjour.
Tous les deux.
Bonjour Rose.
Nous sommes là. Nous sommes
bonjour.
Là. Bonjour Roselyne. On est là pour vous parler de l'actualité. Je vais un peu vous faire un peu dans l'exotisme, c'est-à-dire vous emmener promener un petit moment à un endroit dont on ne parle pas, ou quand on parle, évidemment, vous n'y comprenez rien parce qu'on ne vous explique pas. Bon. Alors, ce qui s'est passé il y a donc à peu près une semaine, ça s'est passé au Baloutchistan. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est le Baloutchistan? Alors, je vais en dire dessus parce que c'est très intéressant sur la façon dont fonctionne l'impérialisme, en particulier l'impérialisme britannique, depuis qu'il est à la tête des opérations et depuis qu'il essaye, je l'ai déjà souligné, de reprendre la main sur les grandes affaires diplomatiques, parce qu'il se rend compte que les États-Unis, dans la crise politique qu'ils traversent, n'ont plus tellement la maîtrise des problèmes de fond. Ils sont coincés entre le président malade, l'élection qui se présente très très mal, des parlementaires. Alors c'est intéressant à noter, il y a une série de parlementaires à la Chambre des représentants, donc qui sont des jeunes démocrates d'origine de différents pays non américains, donc des jeunes de l'immigration mais devenus citoyens et même élus du peuple américain, qui ont présenté une résolution, alors qui n'a pas été mise au vote encore, ça remonte à mi-décembre, disant que y en avait assez que les États-Unis martyrisent l'Amérique du Sud. C'est très très joli, vous voyez, alors c'est des choses qu'on dit nous à la radio, mais ça n'arrivait pas jusqu'à une résolution qui n'est pas encore votée, j'insiste, et qui sera évidemment pas votée, mais pour qu'il y ait quand même une dizaine, en gros, elles sont de députés à la Chambre des représentants, qui présentent une motion en disant il faut arrêter la doctrine Monroe, c'est-à-dire la décision qui a été prise il y a de ça deux siècles par le président Monroe, a été de dire ce continent d'un bout à l'autre nous appartient et donc tous les États qui sont sur ce continent doivent nous obéir. Alors pour qu'il y ait, et ça c'est une première, ça n'aura pas de suite immédiate puisque la résolution ne va évidemment pas être votée, pas être acceptée, mais ça veut dire qu'il y a quand même des jeunes citoyennes des États-Unis qui viennent de différents pays, il y a une d'origine palestinienne, une d'origine guatémaltèque, enfin, je ne fais pas le détail, peu importe, c'est à l'image des États-Unis, c'est-à-dire tout le monde est bien immigré de quelque part, sauf s'il est indien, mais il n'y a pas, que je sache, d'indiens sortis des réserves qui aient été élus jamais à la Chambre des représentants, ils sont trop peu nombreux et ils sont trop, trop maltraités pour ça. Donc, on vient toujours de quelque part quand on est citoyen des États-Unis. C'est vrai dans beaucoup d'autres endroits, mais là, particulièrement dans ce pays, puisque c'est les immigrés qui font la loi, hein, qui sont à la tête du pays. Alors, à la tête du pays, j'insiste, ça a été dit aussi, et c'est clair, c'est d'abord les immigrés d'origine européenne qui n'ont jamais lâché le morceau et qui, de temps en temps, trouvent un black qui va faire office dans leur politique à eux, genre Colin Powell ou Condoleezza Rice et tout. Mais enfin, c'est clairement les Blancs d'origine britannique, irlandaise, allemande, principalement, qui font la loi aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Bon, je voulais simplement souligner qu'il y a un début, une petite fracture. Hein, il y a quelques élus, donc démocrates, elles sont, retenons-le, qui osent dire il faut qu'on ait un débat public, puisque ça se passera à la Chambre des représentants, je pense, ce mois-ci, sur le fait qu'on doit laisser vivre les pays d'Amérique et qu'on n'est pas tout seul à gouverner. C'est un petit début. On se contente de peu en ce moment, bien sûr, de ce côté-là. Mais je reviens à mon Baloutchistan, qui n'est pas du tout le mien. Alors, le Baloutchistan, vous n'en avez jamais entendu parler parce que ce n'est pas un État reconnu. Ça n'existe pas, le Baloutchistan, sauf qu'il y a des Baloutches.
Ouais, Baloutche,
à partir du moment où il y a des Baloutches, pas très nombreux, en gros autour de 4 millions, ouais, dans un pays qui est au 4e, 5e désertique, donc avec pas beaucoup de ressources économiques, mais avec quand même une position stratégique très très importante, c'est-à-dire donner directement tout un front de mer sur la mer d'Arabie, entre le Pakistan d'un côté, le détroit d'Ormuz de l'autre, et après l'Iran, Donc, c'est ça, cette position. Donc, ces 4 millions ils sont là et ils
c'est
n'ont pas...
C'est une ethnie, je pense.
Voilà, c'est une ethnie. C'est une ethnie, voilà. C'est une ethnie qui a donc été en partie dans l'Empire britannique. Et l'Empire britannique a fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire que quand il en va, il n'aime pas s'en aller. D'abord, il aime dominer et être là. Quand il s'en va, il fait comme il a fait en Inde. Et c'est jamais que la suite, une annexe de ce qu'il a fait en Inde. C'est-à-dire, il faut laisser un facteur de désordre, pas pour 2-3 ans, séculaire. Le facteur de désordre pour l'Inde en tant que telle, ça a été séparer donc l'Inde du Pakistan, donc séparer formellement les musulmans, mais ça ne tient pas debout, puisque des musulmans, il y en a beaucoup dans l'Inde actuelle, mais au moins les séparer pour qu'il y ait un État musulman qui ensuite lui-même va éclater en deux avec le Bangladesh et le Pakistan, et un État indien à majorité hindouiste. Bon, ça, c'était le travail sur l'Inde. Celui-là, il est connu, il a été décrit. Mais ce qui s'est passé au Baloutchistan, c'est exactement du même tonneau. C'est-à-dire que quand l'Angleterre décide de lâcher la main dans l'Empire des Indes, puisqu'elle est bien obligée, elle décide de couper la zone Baloutche, qui est une zone qui s'étend donc de l'ouest du Pakistan actuel jusqu'au sud-est de l'Iran actuel, en 4 royaumes. Parce que alors, là aussi, art de la division, alors coup de chapeau à la diplomatie britannique, on ne laisse pas un Baloutchistan uni, ça ferait trop de monde, ou au moins trop d'espace. C'est grand le Baloutchistan. Et donc, on divise en 4 morceaux, et on met 4 souverains qu'on a fabriqués de telle façon qu'ils ne s'entendent pas. Ouais. Donc, c'est... Je veux dire, on regarde ces histoires comme ça, on dit, le Royaume-Uni, la colonisation britannique, c'est les rois du désordre. Je mets le désordre partout et quand je suis obligé de m'en aller, moi, je laisse des ferments de désordre pour des décennies. Là, on en est là. Hein, donc, on est à 80 ans, en gros, de l'indépendance de l'Inde. Pas tout à fait, presque. Hein, et donc, le Baloutchistan est un cas non réglé. C'est-à-dire qu'en fait, ces Baloutches sont séparés. Alors, les 4 royaumes ont plus ou moins survécu. Et puis, en fait, il y a une espèce d'existence de fait, puisque de fait, d'un côté, Est, on est en territoire pakistanais, donc ces Baloutches sont de fait citoyens pakistanais, qu'ils le veuillent ou non. Et de l'autre côté, du côté ouest, ben, ils sont de nationalité iranienne. Et puis c'est comme ça. Et il y a une ligne qui a été tracée par les Britanniques qui a fait cette séparation. C'est-à-dire que la frontière ouest du Pakistan, elle n'a pas été dessinée à Islamabad ou à Lahore, elle a été dessinée à Londres, une fois comme d'habitude, j'allais dire. Hein. Et elle est, en plus, c'est même pas une ligne droite, elle est assez compliquée à suivre. Bon, oui, enfin, il y a de quoi. Il y a des ferments de discorde, de division installés de façon très, très durable, puisque je dis, à 80 ans après, on n'a toujours pas réglé le problème. Il est posé des deux côtés et il n'est pas réglé des deux côtés. Alors, pourquoi il n'est pas réglé des deux côtés ? D'une part, parce que du côté iranien, ces Baloutches ont le désavantage par rapport au gouvernement actuel de l'Iran d'être des sunnites. Bon, effectivement, donc là, il y a un problème de concurrence, de division sur la base religieuse. Et de l'autre côté, ils occupent pratiquement, à part la zone de Karachi elle-même, tout le rivage utile du Pakistan sur la mer. Et donc, c'est difficile de les réprimer trop, puisque c'est quand même un endroit stratégique. Et puis, je rappelle, chacun le sait, que le Pakistan est devenu une puissance nucléaire avec laquelle il faut composer. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Eh bien, il y a eu, alors, on nous a dit, un échange de tirs entre l'Iran et le Pakistan. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, des drones iraniens, ça n'a pas été une armée qui a envahi le sol pakistanais, c'est pas du tout ça, mais des drones iraniens sont allés tirer sur un groupe rebelle qui se trouvait de l'autre côté de la frontière, donc en territoire pakistanais, mais baloutche, hein, pour éliminer des gens qui voulaient intervenir dans la situation iranienne. Ouais. Alors, qui c'est ces gens-là ? Ben, c'est très probablement, à bien essayer de comprendre, c'est probablement Al-Qaïda qui est là, parce que pourquoi pas, hein, dans ces zones mal contrôlées politiquement, de misère, avec des influences diverses et tout, tout peut arriver.
Ouais, il y a le Daesh aussi.
Voilà, Daesh. Et donc, en fait, ce que faisait l'Iran qui sait bien que Daesh, l'État islamique, ce qu'il en reste, c'est son ennemi, est allé envoyer un signal sous forme d'attaque de drone sur une de ses milices qui sévissait côté pakistanais. Bon. En foi de quoi, et à la suite de quoi, le Pakistan, pour bien montrer qu'il est quand même une grande puissance, a riposté. Et il a tiré aussi sur le sol iranien, sur les Baloutches en fait, hein, mais sur le sol iranien officiel. Bon. ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup partout, j'allais dire. Les Iraniens lancent leurs attaques sur la milice, sur donc probablement Daesh, et les Pakistanais ripostent pour dire que, attendez, on ne nous fait pas ça chez nous sans préavis, etc. C'est pas bien, on est quand même fort, on est 200 millions, on a la bombe atomique, soyons sages, calmons-nous. Et en fait, le calme est revenu. Le calme est tellement revenu qu'à telle enseigne, enfin, il n'est pas revenu entre le Pakistan et l'Iran, mais qu'à telle enseigne que le ministre des Affaires étrangères iranien est aujourd'hui à Delhi pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères indien. Pour dire, bon, là, alors, de quoi ils vont parler ? Ben, effectivement, des relations, puis ils vont dire, là, il y a une espèce d'abcès qu'il faudrait éviter de laisser s'envenimer.
Hein, oui,
c'est ça. Alors, ils le font comme ça. Alors, ce n'est pas des relations directes avec le ministre pakistanais, parce que le Pakistan, pour l'instant, et depuis donc le renversement de Imran Khan, est dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire que Imran Khan a été perçu tout à fait à juste titre par les États-Unis en particulier et par tout l'Occident comme étant celui qui allait sortir de la position conflictuelle autant avec le voisin indien sur la question du Cachemire, du Pendjab et tout, qu'avec le voisin iranien et même le voisin afghan. Et ça, il fallait absolument que ça ne marche pas du point de vue des États-Unis et de l'impérialisme. Il fallait que le Pakistan, comme il l'a fait depuis quasiment l'indépendance, obéisse aux intérêts supérieurs des États-Unis. Et ça se passe. Alors cet intérêt passe par l'armée, les services secrets pakistanais, et on sait tout leur rôle dans la guerre d'Afghanistan. Tout ça est très très connu. Et donc en fait, comme le renversement par un coup d'État non violent, un coup d'État constitutionnel contre Imran Khan a marché, et qu'elle a remis en fait l'armée et les services secrets pakistanais au pouvoir, ça empêche pour l'instant que l'Iran puisse aller discuter avec le Pakistan. Par contre, il a intérêt à discuter avec l'Inde, puisque tous les problèmes à cet endroit-là sont liés les uns aux autres. Et pour montrer à l'Inde, qui pèse plus lourd que le Pakistan malgré tout sur la scène internationale, que l'Iran n'est pas décidé à susciter une guerre dans cet endroit-là qui est déjà assez compliqué comme ça. Bon. Voilà ce que je voulais en dire pour donner un cadre. Hein. Alors, il n'y a pas d'État balouche en préparation. Alors, il y a différentes milices, il y a une armée de libération du Balouchistan et tout. C'est très, très compliqué. On est très, très loin du compte dans la mesure où le territoire est très, très grand. Il y a très peu de monde et qu'en fait, les intérêts des puissances qui sont autour ne vont pas dans le sens de la reconnaissance d'un État balouche. Mais par contre, c'est un endroit assez mal contrôlé où Daesh peut sévir, d'autres milices peuvent sévir, où il peut se passer des choses pas nettes.
Il y a eu trois points quand même. Trois points. Et Pakistan, le Baloutchan de Pakistan, d'une part, et d'autre part, dans le Kurdistan de l'Irak.
Aussi.
En même temps, d'ailleurs,
en même temps.
Et en Syrie.
Tout à fait.
À Idlib.
Tout à fait. Alors, effectivement, cette intervention, probablement de Daesh, donc depuis le territoire baloutche pakistanais, correspond à une volonté de compliquer la vie à l'Iran, qui est orchestrée, évidemment, par les États-Unis.
C'est ça.
On retrouve le jeu d'ensemble. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ce jeu est possible dès l'instant où on est sur des tracés de frontières et sur des répartitions ethniques qui sont un héritage britannique. Hein. Le bazar balouchistan, pas au nom du commerce, mais au nom du désordre et la complication, est un héritage de la colonisation britannique.
Et surtout les alliances là, qu'ils ont avec des extrémistes.
Tout à fait. Et la colonisation britannique, il faut remonter à l'époque où ça a eu lieu, c'est-à-dire qu'elle voulait que l'Iran, donc la Perse de l'époque, qui était son principal fournisseur de pétrole, reste un État solide et indépendant. Donc il ne s'agissait pas de faire de la peine à l'Iran hein, non plus. Il ne s'agissait pas de faire de la peine aux deux autres non plus. Donc il fallait qu'il y ait cet endroit mal cerné, si très bien cerné sur les cartes, on voit très bien où sont les Baloutches, mais en fait, qui n'est soutenu par personne pour devenir un État. Alors déjà que la situation régionale est compliquée, personne ne soutiendra les quelques milliers de Baloutches qui voudraient avoir un État. On n'en est pas là. Alors, dernière chose, l'aspect portuaire des choses, c'est très très important aussi. Vous savez que les investissements chinois très très massifs au Pakistan, qui ont consisté à créer une route régulière pour passer de la marchandise, des personnes et tout, via les cols dans l'Everest, directement depuis la Chine jusqu'au Pakistan, ont débouché sur un port sur la mer d'Arabie, qui est le port de Gwadar, qui est en cours de développement. Mais il faut savoir que les Iraniens de leur côté ont fait la même chose. Alors Gwadar, c'est un territoire baloutche, et les Iraniens, pour ne pas être en reste, ont fait la même chose. Un autre port qui s'appelle Shabahan, qui est sur la même mer, à quelques dizaines de kilomètres du port pakistanais, qui s'appelle Shabahan. Et donc, ce qui se joue là, derrière ces accrochages assez peu compréhensibles, ces milices, ces différents groupes baloutches qui sont opposés les uns aux autres, qui revendiquent l'indépendance, qui revendiquent un bout de territoire, enfin, je ne rentre pas, c'est une espèce de capharnaüm incompréhensible, mais ce qu'il y a derrière, et c'est là que la grande géopolitique reprend sa place, c'est que depuis cet endroit de la mer d'Arabie jusqu'à l'intérieur du continent, c'est-à-dire en passant par l'Iran, en passant même par l'Afghanistan, on arrive au cœur du continent, on arrive au Kazakhstan, on arrive sur les routes de la soie, on arrive sur les zones d'influence chinoise. Donc on a là un signe qu'il y a une véritable activité de destruction de la politique chinoise des routes de la soie. C'est ça qu'il y a derrière. Mais il faut tirer le fil pour arriver à comprendre. Mais il faut bien la situer dans ce jeu-là, qui est le jeu auquel on va assister pendant tous les mois et peut-être les années encore qui viennent, c'est-à-dire les États-Unis, dans leur dernier soubresaut de souveraineté mondiale, essayent de détricoter la totalité du travail qui a été fait par la Chine d'un côté, par la Russie de l'autre, pour essayer de donner à ce continent une homogénéité, des bonnes relations et un développement économique général qui ne soit pas entre les mains de personnes étrangères et d'États étrangers, et qui surtout ne soit pas mis en œuvre sur ces territoires-là, tous ces groupes finançables, radicaux, islamistes ou pas islamistes et tout, qui sont là uniquement comme des facteurs de désordre fabriqués par l'impérialisme des États-Unis.
Je voulais préciser que justement les États-Unis étaient en parallèle en ce moment en Afrique, pareil, notamment Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Ouganda, etc., pour ce même type de choses, c'est-à-dire contrer toutes les installations chinoises et russes en même temps, voilà. Et puis au passage pour promouvoir les droits de l'homme et de la démocratie.
Ça, c'est l'habillage.
Voilà, ce qui nous fait un petit peu quand même...
Ouais, ça, c'est la vie. Ouais. Non, mais voilà, même politique de désordre qu'on peut retrouver, on va la retrouver aussi, elle est en cours en Argentine, même chose, hein, on pourra en dire un mot.
Et ils sont aussi en train de semer la zizanie au Mali par rapport aux djihadistes qui viennent en nombre, et on sait d'où ils viennent.
Voilà, et on sait qui les paye, voilà, c'est ça. Donc, tout à fait. Voilà, donc on est passé par le Baloutchistan, et puis on s'aperçoit qu'on est là comme un des nombreux terrains d'affrontement entre l'Empire qui essaye de survivre et ses adversaires qui essayent de s'organiser et d'organiser un monde de collaboration et de paix, pas du tout de bagarre continuelle et de susciter des milices de toutes les couleurs. Bien.
Il y a eu quand même
dis-nous, Habib,
une réunion avec les deux ministres, le ministre des Affaires étrangères iranien et pakistanais dernièrement
aussi,
pour calmer le jeu.
Alors comme quoi, donc ne pas dramatiser cet échange de tirs au-dessus de la frontière,
voilà,
avec quatre
ça,
drones par-ci, quatre drones par-là. C'est pas du tout une décision politique des deux États de s'affronter. C'est une décision que je pense à Islamabad, on la comprend, parce que si j'ai dit que les militaires avaient repris le pouvoir et les services secrets l'avaient repris le pouvoir, donc entre les mains des Américains, avec la prudence qu'il faut avoir quand on manipule ce genre d'expression. Mais enfin, j'insistais sur le débarquement, la mise à l'écart d'Imran Khan, c'était bien ça que ça voulait dire. Hein. Ouais. Reprise de l'influence des États-Unis, Imran Khan ayant commis l'erreur dramatique d'aller discuter avec la Russie pour avoir de bonnes relations avec la Russie. Bon, ça, c'était inacceptable. Donc, il a été puni. Ceci étant, il faut bien comprendre aussi que tout ça est fragile, puisque les manifestations de la population pakistanaise, et Dieu sait si les manifestations étaient nombreuses, énormes même, en faveur d'Imran Khan, n'ont pas permis son retour au pouvoir, mais le soutien populaire à son orientation qui était plus neutraliste, sortir de l'influence des États-Unis, est très très forte. Et
ouais,
donc,
moi,
la carte, voilà, ouais. ça risque de revenir. Ouais. Voilà, une petite, enfin c'est plus qu'une entrée en matière puisqu'on est déjà au cœur du sujet. Au cœur du sujet, on va y rester. Alors, vous pouvez regarder sur les Balouches, il y a très très peu de publications. Il n'y a pas de publications en français ou quasiment pas. Il n'y a pas beaucoup de documentation. Simplement, dans les publications britanniques, on trouve, mais effectivement avec la vision des Britanniques sur la situation. Et retenez là aussi que, à l'occasion, l'Empire, quand il peut jouer sur une division religieuse des sunnites balouches et des chiites à Téhéran et autour, il ne se prive pas de mettre de l'huile sur ce feu-là. C'est classique. Mais revenons au cœur du conflit, c'est-à-dire le cœur du conflit, cette réorganisation du monde, elle se cristallise autour de la Palestine. Tout le monde l'a compris.
Ouais.
Alors, ce qui s'est passé d'intéressant... On a parlé déjà donc du procès qui s'ouvre devant la Cour internationale de justice et qui est une accusation de l'Afrique du Sud contre Israël. Et on a pu voir, pour ceux qui regardent des médias autres que les médias de masse français, on a pu voir les présentations des dossiers sud-africains le premier jour et israéliens le lendemain. Alors on a pu voir. Seulement, on n'a pas vu, puisque vous savez qu'en France, les seules rediffusions qui ont eu lieu sur un certain nombre de chaînes, c'est uniquement la journée israélienne. Comme ouais. ça, on a pu. Le citoyen français de base qui ne se préoccupe pas de savoir exactement où est la vérité, on lui a vendu la version israélienne et évidemment, on ne lui a pas vendu l'autre. Alors, l'autre, en cherchant, on la trouve, mais c'est en général dans des chaînes britanniques et tout. C'est moins compliqué, c'est moins d'accès de base. Donc, pour l'opinion moyenne française, il y a qu'une position qui a été expliquée, c'est la position israélienne. Bon. Alors là, on retrouve le choix de la direction française, de Macron, de toute son équipe, son alignement. Il n'y a pas de surprise. Mais il faut quand même voir ce qui se passe après donc, ce point de départ, qui est donc les deux journées où le plaignant et le défenseur donc, présentent leurs arguments, puisqu'il s'agit d'un procès mené... Alors j'insiste là-dessus, sans beaucoup développer, pour le fait qu'on n'est pas dans un procès qui est mené suivant les normes du droit romain ou du droit français, du droit écrit. C'est-à-dire on est dans un procès sur les bases de la procédure britannique qui s'appelle la common law. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de magistrat instructeur dans un procès avec la common law. Il y a simplement deux parties qui viennent, chacun avec ses arguments, on écoute l'un, on écoute l'autre, et le jury va les faire parler, va demander des compléments de preuves et tout, le jury va se trancher. Donc toute la phase qui est caractéristique de nos procédures judiciaires, qui sont elles-mêmes héritées du droit romain, il faut voir qu'il y a une vraie coupure culturelle entre le droit comme le common law qui est britannique et le droit français qui est issu du droit romain, c'est celle-là. Nous, on a toujours l'intervention d'un juge d'instruction qui va, pendant le temps qui lui sera nécessaire, alors ça peut être quelques jours, ça peut être des mois, ça peut être des années, aller chercher partout, tranquillement, dans le confort de son cabinet, des éléments pour apporter au tribunal qui, en dernier instant, jugera. Ce n'est pas le juge d'instruction qui juge, mais il va apporter au tribunal une masse de documents qu'il aura triés, filtrés, il aura donné un ordre, une consistance et tout, et le tribunal ne sera pas là à courir de tous les sens, dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, prouvez-le-moi, etc. Donc on a une mode d'expression du droit qui est très très différent. C'est comme ça que, de toute façon, fonctionne la Cour internationale de justice. Donc on laisse les deux parties, l'accusateur et le défenseur, livrer leur dossier, et puis après, on se débrouille avec. Alors, on se débrouille avec des moyens qui sont pas nuls. Il y a quand même 15 magistrats qui siègent à la Cour internationale de justice. Mais ils peuvent prendre leur temps, puisque au départ, ils ne savent rien que ce qu'ils ont entendu en quelques heures dans les deux premières journées de démarrage du procès. Ce qui veut dire qu'il y a des procès devant la Cour internationale de justice qui se sont terminés 15 ans après le dépôt des plaintes. Parce qu'effectivement, comme ces magistrats essayaient de faire leur travail, il leur a fallu le temps de faire ce qu'aurait fait un juge d'instruction dans une juridiction française, c'est-à-dire d'aller chercher tout ce qui était nécessaire pour la compréhension du sujet et pour dire qui avait tort et qui avait raison. Bon, ça, c'est déjà un rappel. La situation qu'il faut bien expliquer, parce que l'opinion française, en général, elle ne se rend pas compte de ces différences-là qui sont très, très importantes et qui mettent en cause l'efficacité de cette juridiction. Alors elle a rendu des jugements qui ont été appliqués, respectés, des conflits de frontières entre deux États qui ont dit « Ok, bon, on laisse la CIJ trancher, et une fois qu'elle aura tranché, on respecte, on délimite la frontière suivant les règles et tout. » Ça, ça marche. Ça marche pas toujours. Et c'est souvent très très long. Ceci étant posé, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas, quoi qu'il arrive, de jugement de la Cour internationale de justice sur le conflit palestinien avant X, Y années, personne ne peut le savoir. Si bien même, ce qui n'est pas encore fait à l'heure où je vous parle, si bien même elle décide de poursuivre, parce qu'il est très possible, enfin il est très possible, je l'exclus et c'est douloureux de le dire, mais il est très possible que dise finalement cette plainte n'est pas fondée, la plainte sud-africaine. C'est pas exclu. On verra, je pense que ça va se faire dans quelques jours. On avait annoncé pour cette semaine, je ne sais pas si ça sera cette semaine. Je pense qu'on aura peut-être, j'espère qu'on n'aura pas de surprise, mais il faut savoir que l'enjeu est tel, c'est-à-dire condamner Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France, d'un seul coup, à la demande d'un pays africain, c'est un événement dans la politique mondiale d'une grandeur incroyable. Et donc, effectivement, ceux qui risqueraient d'être condamnés, Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et d'autres, feront tout ce qui est en leur possibilité pour éviter que ça tombe dans ce sens-là. On verra. Je ne prends pas de pari, c'est une affaire difficile.
Il y a pas mal de pays où ils sont rejoints sur l'Afrique du Sud.
Voilà. Hein, il faut pas voilà. Alors, il y a des pays qui soutiennent. Ouais. Hein, mais alors, il faut savoir que la suite de la procédure, c'est que c'est prévu dans le statut de la Cour internationale de justice. On peut, à l'image de ce qui se fait dans une procédure judiciaire en France, se porter partie civile. C'est-à-dire dire, moi, j'ai un intérêt dans le conflit qui va être tranché par la Cour, parce que pour telle et telle raison, et à ce moment-là, le procureur peut dire effectivement, vous pouvez vous constituer partie civile parce que le jugement aura une incidence sur vous. Alors ça existe, ça s'appelle la tierce partie dans le statut de la Cour internationale de justice. Et il y a deux pays qui se sont portés, donc, tierce partie dans le conflit, donc dans le procès Afrique du Sud contre Israël. Et je les nomme parce que c'est important de savoir. Les autres, il y a des soutiens, il y a des lettres d'accompagnement. Mais les deux pays qui se sentent engagés dans la procédure, c'est d'un côté l'Iran, du côté de la Palestine. De l'autre côté, l'Allemagne, du côté d'Israël. Et là, ça mérite qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Alors, comment s'expliquer que l'Allemagne, dans un procès au sujet de la Convention sur le génocide, je rappelle que c'est pour ça que l'Afrique du Sud attaque plaide contre Israël. Bon, comment expliquer que l'Allemagne se prenne cette position anti-palestinienne, anti-sud-africaine et pro-israélienne après ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? Alors, il y a une explication. Il y a une explication et je vais vous la donner parce qu'elle me paraît totalement pertinente. Elle a été donnée par Madame la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui s'appelle Maria Zakharova, qui, vous savez, toutes les semaines fait un point de presse général. Et là, je pense en plus, elle s'est fendue d'un commentaire sur ce cas particulier, qui, en substance, est le suivant. Alors, je ne vous le dis pas, mais je vous explique la démarche. Elle dit, voilà, ce qui se passe en Allemagne, c'est très particulier. La lecture que l'Allemagne a fait de la Deuxième Guerre mondiale et de ce que l'Allemagne a fait, hein, parce que c'est quand même l'Allemagne, hein, les nazis ont pris le pouvoir, certes, ils ont pris le pouvoir, ils ont quand même été soutenus par la grande bourgeoisie et par le grand capital allemand, ils ont été même soutenus par un parti et pour un certain temps par le grand capital des États-Unis. Non. Donc il ne faut pas dire que c'est quelques Allemands qui ont fait un putsch et qui ont amené ce pays à faire ce qu'il a fait. Non. Ça a été dur, très très dur pour ceux qui s'opposaient à la politique nazie. Beaucoup ont dû partir, d'autres sont morts, mais c'est une grosse partie de la population allemande qui a participé aux opérations. Bon, ça, il faut le souvenir. Alors, c'est très délicat à porter pour les Allemands, on le comprend, mais effectivement, c'est la réalité. On ne peut pas dire qu'il y a eu 30 millions d'Allemands qui ont été contraints par la force, le pistolet sur la tempe, de voter pour les nazis et de s'enrôler dans les SS et dans les SA. Donc ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il y a eu des complicités de l'Église, des complicités donc, des sociodémocrates, des complicités du grand patronat allemand. Tout ça a amené un résultat qui n'est pas brillant, qui est le nazisme, mais ce n'est pas les nazis qui ont décidé tout seuls de prendre le pouvoir. D'ailleurs, quand les nazis, vous savez, Hitler a tenté un putsch en 1922, ils étaient quatre chats, il s'est retrouvé en prison, c'est tout. Hein. Donc il a fallu qu'ils réunissent tous ses soutiens pour arriver à prendre le pouvoir. C'est autre chose. Bon. Alors qu'est-ce que dit Maria Zakharova? Elle dit, ben voilà, l'Allemagne, elle a mal compris la Deuxième Guerre mondiale telle qu'elle l'a menée. Parce que c'est quand même l'Allemagne qui l'a menée. Au nom de la supériorité de la race allemande. Je le soutiens, je le rappelle. C'était ça qui était le motif mis en avant, le motif de mobilisation populaire. Alors, Maria Zakharova dit, c'est très simple. Ils ont vu, ils ne voient que la question du génocide des Juifs, qui faisait partie du programme, on le sait, et avec quelle horreur, on le sait. Mais ils oublient de dire qu'il y avait aussi la même chose contre les gitans, contre les homosexuels et contre les slaves. Parce qu'elle dit, les 27 millions de soviétiques qui sont morts dans la guerre que nous a menés à nous, Russie, le Reich allemand, c'était des ennemis affirmés. Or ça, c'est totalement disparu, totalement oublié de la conscience allemande contemporaine. Et quand donc M. Scholz dit, enfin moi, gouvernement de la République fédérale allemande, je décide de soutenir la position israélienne, il fait comme si l'Allemagne n'avait que participé ou contribué au meurtre des Juifs. Elle n'aurait rien fait d'autre. Et donc les 27 millions de Russes seraient morts pour rien. On les a oubliés dans l'histoire. Or ça, vous pouvez dire ça à beaucoup de gens, mais vous ne pouvez pas dire ça à Moscou. C'est pas possible, ça ne s'entend pas, ce discours-là. Et c'est pour ça que Mme Zakharova, à juste titre, dit « Non, non, l'Allemagne est en train de réécrire l'histoire parce que ça la dérange, au fond, que d'avoir fait ce qu'elle a fait à tout le monde, hein, juifs, slaves, voilà, tout ce qu'on veut. Il y avait tout le monde. Dans la catégorie vaste de ce que les nazis appelaient les « Untermenschen », les sous-hommes, il n'y avait pas que les juifs. Bon. Et c'est ça qu'il faut rappeler. C'est ça qu'il faut rappeler parce qu'il y a une certaine histoire qui s'est écrite depuis qui consiste à dire « Ah, le seul crime des nazis et de Hitler, c'est le meurtre des Juifs ». Ben non, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête hélas pas là. Il a fait beaucoup, beaucoup plus de mal. Et surtout, lui, c'est un discours qui est totalement inaudible à Moscou. D'où, pas de surprise, l'Allemagne qui est sur ce parcours-là décide de soutenir Israël dans le procès à la Cour internationale de justice. Ce qui veut dire, alors si l'Allemagne en est là, ça veut dire que l'Occident en est là, que les États-Unis en sont là, on avait compris, que la France va probablement suivre. Donc c'est pour ça que je vous dis, le procès devant la Cour internationale de justice est un procès très très important en ce sens, qui va délimiter pour un certain temps des lignes de fracture entre le camp occidental, capitaliste autour des États-Unis qui en sont la principale puissance, et tout le reste du monde, où on retrouve beaucoup de gens. Alors après... Après ces deux pays donc, qui se comportent donc, en tierce partie, qui ont, donc, se trouvent impliqués dans le procès lui-même, il y a toute une série de pays qui appuient la démarche. Alors, c'est des déclarations de ministres des Affaires étrangères, c'est des choses comme ça. Mais dans le procès, il n'y a que pour l'instant quatre parties. Hein, les deux, l'accusateur, le défendeur et deux qui soutiennent, un de chaque côté. C'est ça. Pour les juges, il n'y a rien d'autre. Après, tout ça, tout le reste, c'est le climat politique autour de cette affaire. Et le climat politique, il mérite d'être souligné parce qu'il est d'une ampleur considérable, puisque, en fait, c'est l'ouverture d'une période historique qui s'est achevée en 1945 par la victoire des États-Unis et leur domination, et qui ouvre sur une autre période où les États-Unis ne font plus la loi parce qu'ils ne sont plus respectés dans leurs paroles démocratiques, tu as insisté là-dessus, Roselyne, et parce qu'en plus, les moyens matériels de leur domination sont en train de leur manquer. Ça, c'est l'autre aspect des choses, bien que on a su, alors on va parler un petit peu de l'Ukraine, parce que c'est intéressant de le dire. Ce qui se passe pour l'Ukraine, c'est la chose suivante. Ça me fait une transition. C'est que le temps Zelensky est probablement terminé. Et ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est d'essayer de mettre à sa place une espèce de direction à eux qui soit plus proche des intérêts du business américain, business des armes, business du blé, business de la chimie, business de l'agrochimie, business des laboratoires pharmaceutiques, etc. Et d'une certaine façon, ils ont arrivé à la conclusion que Zelensky les dérange un peu par son extrémisme et son jusqu'au boutisme. Il serait bien, au fond... Aux États-Unis, on se dit, si on trouvait une équipe là, un peu raisonnable, parlant business, gros chèques, etc., et qui nous laisserait une partie de l'économie ukrainienne, celle que les Russes voudront bien nous laisser, pour profiter de la situation et avoir une nouvelle colonie en Europe, ça nous suffirait bien. Ça éviterait, parce que l'affrontement militaire avec la Russie, direct aux États-Unis, c'est pas possible. On se rend compte depuis 2 ans maintenant qu'on n'y arrive pas, qu'on est à court d'armement dans les arsenaux, qu'on n'a pas de grands soldats et qu'on ne peut pas engager surtout pas les nôtres. Vous savez que le critère aux États-Unis, c'est surtout ne pas envoyer les boys. Alors, faire faire le boulot par qui on trouve, à n'importe quel prix, mais surtout ne pas envoyer les boys, parce qu'un cercueil qui revient avec le drapeau américain, c'est toujours mauvais pour une campagne électorale. Alors surtout en ce moment, mais à 9 mois des élections présidentielles, il faut absolument éviter ça. Donc par contre, un gouvernement d'affaires, disant, bon, ça on fait ci, ça on fait ça, on a pratiquement tout déjà, puisque BlackRock est bien installé, Monsanto est déjà bien installé, Cargill, le grand négociant en grains, est bien installé. Alors, je ne peux pas s'amuser avec ça. Il faut savoir que, vous avez vu, les agriculteurs européens, ils manifestent en ce moment contre la politique de l'Union européenne. Et en particulier, ça touche beaucoup les céréaliculteurs, parce qu'ils sont soumis et ils sont victimes des importations de complaisance de blé ukrainien qui cassent les prix sur le marché national et sur le marché international. Et l'Europe, alors, et la France en particulier, risque de devenir importatrice nette de blé, alors qu'elle est une puissance exportatrice bien installée, parce que le blé ukrainien va arriver à vil prix sur le marché international. Or, ce blé ukrainien, il n'est pas ukrainien, il appartient déjà à des grandes sociétés des États-Unis. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui sont en train de détruire l'agriculture européenne. Comprenez bien ça. Alors, je ne sais pas si ça sera l'ordre du jour des manifs derrière les tracteurs, mais la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que l'Union européenne, et la Commission en particulier, et Mme Ursula von der Leyen, sont là pour que l'Europe s'effondre économiquement. C'est clair. Et là, c'est vrai pour l'agriculteur, c'est vrai pour des quantités d'autres sujets, d'autres secteurs de l'économie. Alors, je reviens à ce gouvernement de nouveau, ce gouvernement business, un business... En premier. Et le reste, finalement, c'est pas grave. Le nombre d'Ukrainiens morts, c'est pas très grave. On veut que les affaires des entreprises américaines qui se sont emparées de pratiquement tout ce qui reste de l'économie ukrainienne prospèrent. C'est ça le but. Le reste, c'est un détail. Alors pour ça, Zelensky et ses copains fascistes sont un peu embarrassants, gênants et tout. Donc il y a cette idée qui a été exposée à Zelensky au mois de décembre quand il est venu à Washington. Mais voilà, c'est ça l'idée. Alors, il n'a peut-être pas bien compris ou il n'a pas voulu comprendre. Et puis surtout, les gens qui sont ses amis et qui doivent lui dire « tu lâches pas, sinon tu meurs hein, », parce que je reviens toujours à cette idée simple, qu'il est entouré de gens qui le liquideront s'il ne fait pas ce qu'il leur dit de faire. Bon, donc Zelensky n'aime pas trop et il continue à s'affirmer comme l'homme de la situation. Alors bien entendu, les moyens manquent. Et puis, on continue dans les mensonges. Alors, le dernier mensonge sur lequel on a été on a pointé les projecteurs, c'est la question des mercenaires français à Kharkov. Je m'arrête un peu là-dessus, puis ça a mobilisé l'attention des journalistes aux ordres. Qu'est-ce qui s'est passé à Kharkov? Donc, il y a eu des tirs de l'armée russe sur un immeuble de Kharkov où était installé le quartier général des mercenaires utilisés par l'armée ukrainienne dans sa guerre contre l'armée russe. Et il se trouve que la majorité des gens qui sont morts dans ce bombardement sont des Français. Alors bien entendu, on a nié en disant mensonge russe, etc. Alors il se trouve, alors vous pouvez, ça vous amuse, je ne l'ai pas apporté, puis je ne vais pas la lire, parce que c'est du temps perdu. Mais enfin, la liste des 30 Français, en gros, qui sont morts, elle apparaît sur des sites, on voit leur nom, on voit leur date de naissance, il y a presque leur numéro de sécurité sociale et tout. Bon, alors, donc, bon, laissons les effets de mensonge pour ceux qui sont. Il y a effectivement, l'armée ukrainienne est tellement affaiblie, et l'Ukraine, enfin le gouvernement Zelensky, a essayé tellement de recruter des Ukrainiens qui ne veulent pas se battre et mourir pour lui, qu'il est obligé de s'en remettre à des mercenaires qu'il embauche partout. Et donc la Russie, bien informée sur ce qui se passait, a dit ben là, je vais montrer à la France et aux mercenaires français, parce que le gouvernement français le sait évidemment, il est pris la main dans le sac, leur dire que ce n'est pas la peine de continuer. C'est très intéressant parce que, alors je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps ni le soin d'aller voir sur les chaînes, grandes chaînes françaises, ce qu'on disait de cette affaire, mais je dis la liste de ces Français, de leur nom, de leur prénom, de leur date de naissance, elle est officielle, on peut la trouver où on veut, il n'y a pas de problème là-dessus. Et les Russes qui publient ça ne courraient pas le risque de fabriquer une fausse liste avec de faux noms et de fausses dates de naissance. Ils seraient ridicules. Hein. Donc voilà, on s'arrête là-dessus. Ça fait partie des mensonges dans lesquels la France s'enlise. Hélas, trop. Alors, je reviens sur nos affaires de Cour internationale de justice et de Palestine, parce que je fais un petit détour par l'Ukraine, pour expliquer que outre le procès à la Cour internationale de justice, il y avait des instances qui étaient déposées devant la Cour pénale internationale. Là, c'est autre chose, puisqu'il s'agit de la responsabilité individuelle de chef d'état-major, de chef d'état, de gouverneur, de chef militaire, de tout ce qu'on veut, de premier ministre, de président et tout. Mais il faut savoir que l'instance devant la Cour internationale de justice bloque pour l'instant toute avancée dans l'ouverture des procès devant la Cour pénale internationale. Parce que si effectivement, si la Cour internationale de justice dit effectivement « Israël a raison », les plaintes contre Israël devant la Cour pénale internationale ont beaucoup, beaucoup plus de peine à cheminer dans les dédales de la Cour pénale internationale. Donc c'est pour ça aussi que ce jugement, cette prise de position de la CIJ est très décisive pour la suite des opérations. Sans se faire d'illusion sur le fait que la Cour pénale internationale, elle aussi, prend le temps, n'arrive pas forcément à attraper les coupables, etc. Bon, on n'a rien vu. Donc le dossier... Ce que je voulais essayer de synthétiser, le dossier judiciaire, en y ajoutant donc ces deux juridictions, Cour internationale de justice et Cour pénale internationale, ne doit pas nous empêcher de regarder la situation politique pour ce qu'elle est et les rapports politiques pour ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ceux qui attendent que le droit dise tout en cette affaire ont peur de s'endormir là-dessus et de... que le cauchemar s'arrête. Non, le cauchemar ne s'arrêtera pas. Il ne faut pas s'endormir là-dessus. D'abord, tout ça va être très long, très compliqué. Et en fait, la résolution du problème se fera dans des rapports de force politiques, dans des rapports de force diplomatiques et éventuellement dans des rapports de force. Parce que c'est ça qui est en jeu à l'heure actuelle et pas autre chose. Que fait le gouvernement israélien ? Démontrer par la force qu'il a raison et qu'il veut. Alors là, on est... plus loin même qu'on ne pensait, de plus en plus les affirmations par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie en particulier, les affirmations par rapport à ce qui se passe à la frontière avec le Liban sont de plus en plus nettes. Il s'agit d'éliminer le nom de Palestine et le concept de peuple palestinien de la surface de la terre. C'est ça.
C'est-à-dire, il y a un intellectuel français, israélien, qui a mis sur table en disant « Bon, il y a deux peuples qui se trouvent en Israël. Il faut bien en éliminer un. »
Voilà, exactement. Voilà. Non, mais c'est ça.
Alors, c'est ce qui s'est passé en Amérique.
Exactement.
C'est ce qui s'est passé en Australie. Tout à fait. Et ainsi de suite. Hein. Voilà. Bon,
C'est exactement ça. Et donc, mais c'est clair maintenant, c'est affiché, et les actes concrets de l'armée israélienne et du gouvernement israélien sont très très nets là-dessus, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à la limite de la frontière libanaise, que ce soit évidemment à Gaza, ça tout le monde le voit. Il s'agit qu'on ne puisse plus même prononcer le mot de peuple palestinien, de palestinien, puisque ce ne seraient plus des Palestiniens. Dès l'instant où on les a tous jetés à la mer ou jetés à Poudou, ils deviennent jordaniens ici, koweïtis là, irakiens à un autre endroit, tout ce qu'on
peut. Même américains.
Et éventuellement, qui sait, américains. Il n'y a plus de Palestine. Il n'y a plus de Palestine, puisqu'il n'y a plus de Palestiniens. On est face à une volonté d'extermination. Bon. Alors ça, je pense que beaucoup de Palestiniens l'ont compris. Et c'est maintenant que tout se joue, c'est-à-dire que où cette volonté d'extermination gagne, et pour un siècle, on ne reparle plus de la question palestinienne, si on n'en reparle jamais, mais on ne sait jamais, parce que l'histoire n'est jamais totalement écrite, ou bien effectivement le peuple palestinien dit « je suis toujours là, je suis chez moi, c'est mon pays, c'est ma terre, et maintenant je veux que mes droits soient reconnus ». Et là-dessus, il y a deux camps. C'est pour ça qu'on revient à la grande politique, il y a deux camps. C'est-à-dire le camp de ceux qui disent « Israël a raison », les États-Unis, la France, l'OTAN, la Grande-Bretagne et tout. Et le camp de plus en plus large de tous ceux qui disent, avec à leur tête bien sûr l'Afrique du Sud, mais beaucoup d'autres, ils disent « mais non, ils étaient chez eux, ils ont le droit de rester chez eux, et ce peuple existe, il n'a pas, on ne peut pas le faire disparaître ».
Au CPI, Bernard, la défense israélienne, ils sont basés sur quoi ? Sur la Bible.
Sur la Bible, oui, oui. À la Cour de justice, mais oui, parce qu'ils n'ont pas d'argument raisonnable, pas d'argument de droit. Ouais. Ils en sont toujours à réciter des chapitres de l'Ancien Testament.
Les élus
qui disent
de Dieu.
C'était chez nous. Bon, c'est du point de vue juridique, ça ne vaut rien. Que chacun ait la conviction que chaque... israélites de confession disent « moi je crois absolument dans ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, on veut bien, on respecte les croyances de chacun », mais faire de ça un argument de droit, alors on pourrait en ressortir des quantités d'autres. Il y a eu quantité d'autres sur la terre de Canaan, comme ils disent, sur la terre de la Palestine actuelle, il y a eu quantité de régimes. qui n'étaient pas tous, loin s'en faut, des régimes israélites.
Ouais,
donc, c'est simplement un non-sens rationnel.
Il y avait des Assyriens, des Chaldéens.
Mais on est en dehors de la raison, là. On n'est pas dans le rationnel, en une espèce d'affirmation magique, métaphysique, de dire il y a un peuple élu. Là aussi, c'est ce qu'on contestable. Et il y a un peuple qui a sa terre à cet endroit-là parce qu'à un moment donné, il y a eu un royaume de Judée. Bon voilà. C'est tout. Alors, quand on voit l'extrême faiblesse de ce dossier israélien du point de vue du droit, on se dit que si jamais la CIJ tombe de ce côté-là, de ce mauvais côté, c'est-à-dire qu'un tribunal international avec des juges de 15 nationalités dit que le droit s'est écrit quelque part dans l'Ancien Testament... Cette Cour internationale de justice, elle s'effondre. Elle n'a plus aucun sens. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Et l'ONU avec.
Et l'ONU avec, oui, puisque c'est la juridiction de l'ONU. Oui. Alors, je pense qu'effectivement, le secrétaire général de l'ONU l'a compris, que le risque était énorme. Mais est-ce qu'il a encore les moyens? Est-ce qu'il a même les moyens de s'opposer? Il ne les a pas, lui. Ça ne peut se jouer que... chez les autres, ceux qui ont compris la mécanique, donc la Russie en particulier, et qui disent « on n'en veut pas », les Chinois non plus, les Sud-Africains non plus, etc. L'Union africaine, presque dans sa grande majorité, est aussi du même avis que l'Afrique du Sud. Bon, ça, c'est bien. L'Amérique latine, c'est beaucoup plus instable. Hein. L'Amérique latine est traversée de courants compliqués et d'une stabilité qui risque de ne pas... de durer, j'allais dire, et je prends quelques instants pour parler de la situation en Argentine. Alors, M. Milei, le nouveau président, dont on a vu la façon de travailler, dont les discours presque apocalyptiques, enfin, je vais tout changer, je vais tout casser, etc., sont évidemment inquiétants, est passé aux actes, c'est-à-dire qu'il a lancé une loi qui rassemble toute une série, sur toute une série de sujets, en gros, qui s'appelle la loi Omnibus, en fait, il veut la faire passer très très vite, qui casse à peu près tout ce qu'il y avait d'état social en Argentine. Alors son problème, c'est quand même qu'il n'a pas la majorité parlementaire. C'est un peu gênant, parce qu'il faudrait faire passer ça au Parlement pour que toutes ces mesures de destruction de l'État social, de dénationalisation de tout ce qui était nationalisé, les pétroles, l'agriculture, etc., bon, tout ça devrait disparaître. Bon. Alors le Parlement, dans sa composition telle qu'on la voit sur le papier, ne peut pas voter ça. Le problème, c'est que là encore... Comme on est dans un régime qui a un passé, enfin un pays qui a un passé un peu inquiétant, on se dit quel type de menaces vont s'exercer sur un certain nombre de parlementaires pour qu'ils changent leur vote et que la loi donc, de privatisation générale passe quand même. Et là, on peut effectivement avoir des inquiétudes. Ouais. L'autre inquiétude vient sur la question de l'armée. Il a été acquis, y compris dans des textes votés par le Parlement après la fin de la dictature militaire, que l'armée ne devait pas intervenir dans les affaires nationales et dans les affaires économiques et politiques du pays. Elle était là pour défendre la nation argentine. Or, il se trouve que beaucoup se posent la question en Argentine de savoir si l'armée ne va pas remettre en cause, avec la bénédiction du président, ce garde-fou. C'est-à-dire, le garde-fou, c'est-à-dire l'armée ne s'occupe que de la défense du pays contre l'agression étrangère. Pour les questions intérieures, de désordre intérieur, de manifestation, il y a une police, il y a des gendarmes, etc. C'est eux qui font le boulot. Le passé est inquiétant, en ce sens que quand l'armée a décidé de faire la loi dans le pays, la loi est donc à remplacer la police, la gendarmerie et tout, on a eu une dictature militaire parmi les plus effroyables que le continent ait connue. L'armée a-t-elle de mauvais souvenirs et fait-elle de mauvais rêves? C'est pas impossible. C'est pas impossible. La situation est très très ouverte. Alors, on en saura un peu plus, un tout petit peu plus demain, puisque il y a à l'appel de toutes les forces vives sociales et des forces syndicales argentines une grande manifestation de masse dans la totalité du pays contre la politique de Milei. Si effectivement c'est le point de départ d'une mobilisation populaire, on peut avoir un peu d'espoir. Mais c'est pas tout, ça se jouera pas que là-dessus, mais ça sera un signal. Si le signal est bon, il y aura une possibilité de progresser pour éviter donc ce coup d'État, qui en est quasiment un, puisqu'il s'agirait de tricher avec le Parlement, de le faire voter dans un sens qu'il faut, avec ce qu'il faut de corruption, de menaces, etc. On l'a vu avec Madame Cristina Kirchner, il existe en Argentine, on peut trouver des gens qui sont prêts à tuer un parlementaire ou à le menacer de mort s'il ne vote pas comme il faut. Ça existe, hein, puisqu'elle a failli en mourir. Donc c'est, ce potentiel-là existe, cette délinquance politique, elle existe, elle peut fonctionner encore. Donc inquiétude sur la question Argentine. Tout ceci a des conséquences, parce que ce qui se passe en Argentine, ça a des conséquences et ça a de l'écho chez les voisins. Le principal écho et le plus inquiétant d'une certaine façon a lieu en Bolivie. La Bolivie, vous le savez, a échappé à un coup d'État de droite, un coup d'État parlementaire. On se souvient, on a raconté ça. Et elle est pour l'instant dirigée par ceux qui ont sauvé le régime démocratique bolivien. Il se trouve que la droite bolivienne attend beaucoup de l'appui que va lui donner l'Argentine pour renverser à nouveau le gouvernement bolivien. C'est à l'ordre du jour, ça s'écrit dans un certain nombre de journaux. Alors il se trouve qu'en plus, le gouvernement bolivien, il est traversé de contradictions entre les anciens du parti d'Evo Morales et l'équipe actuelle, qui elle-même équipe est un peu divisée entre elles. Enfin, il y a une fragilité de l'équipe au pouvoir en Bolivie, à La Paz, qui fait que la possibilité que la droite reprenne le pouvoir en Bolivie n'est pas nulle et elle est favorisée par l'arrivée de Milei au pouvoir en Argentine. Donc, alors, je vois Roselyne qui s'affole. Non, le chaos est là, et donc il va avoir des répercussions partout. Alors, on parlait des Baloutches au début, maintenant je vous parle de la Bolivie. En fait, la planète est en état d'ébullition politique, diplomatique et tout.
Ah oui, ça c'est vrai.
Et donc, il peut se passer à tout moment sur une affaire quelconque. Le fait que les agriculteurs néerlandais, allemands, français manifestent contre la politique de la Commission européenne, c'est aussi un phénomène d'ébullition. C'est-à-dire, on voit assez mal comment...
Et ça va durcir. Hein.
Oui, comment, assez mal comment l'équipe extrêmement faible de M. Attal va pouvoir régler ce type de problème-là. On va voir. Donc, cette ébullition-là va se poursuivre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant L'équateur. Alors, l'équateur.
Il y a eu des problèmes.
Là aussi, on est dans le désordre absolu, puisque le gouvernement, le parti au pouvoir, qui est dirigé donc par le magnat de la banane. Il faut savoir que l'Équateur, je l'ai dit, le premier exportateur mondial de la banane via le port de Guayaquil, et que donc le monsieur qui est à la tête, le président actuel de l'Équateur, est le roi de la banane. Donc les intérêts de ce secteur-là d'activité sont bien pris en main. Et donc il a décidé donc de mettre le pays en état de siège. Et donc c'est l'armée qui gouverne. Donc le Parlement a suspendu son activité. Donc c'est l'armée qui gouverne et le président qui gouverne. Bon. Parce que soi-disant, les milices ont pris le pouvoir, les trafiquants de drogue, etc. Alors les trafiquants de drogue, effectivement, curieusement, ils ont pris le pouvoir parce qu'on les a tous laissés sortir de prison.
Ouais.
Ils n'avaient pas achevé leur peine. Comme par hasard... À peu près dans la même semaine, il y a eu des évasions partout. Et donc ça a permis, une fois qu'on a dit, bah, regardez, tous les criminels, tous les trafiquants de drogue sont dans la rue, il faut sévir. Tiens, mais qui a ouvert les portes ? Enfin, on ne nous explique pas, c'était trop bien trouvé. Et donc ils sont dans la rue, et maintenant ils ne sont plus dans la rue, puisque maintenant il y a les chars. Et qui a peur des chars, ce n'est pas les trafiquants de drogue, c'est les autres, c'est la population en général. Donc situation en Équateur aussi extrêmement instable. Situation au Pérou, j'en dis rien, mais sachez que le président Castillo, qui a été mis à la porte d'un coup d'État parlementaire et tout, il est menacé, tenez-vous bien, de 34 ans de prison. C'est-à-dire, si jamais il est condamné à ses 34 ans de prison, il finira ses jours en prison. Il n'y aura plus d'ouverture pour M. Portillo au Pérou.
Bon. L'Amérique
latine, comme dit, ça va pas fort. Ça va pas fort parce que l'Amérique latine, elle est
prise. Un peu comme au Moyen-Orient.
Elle est prise dans ce désordre général. On ne sait plus qui est le maître. Alors, effectivement, les quelques parlementaires des États-Unis qui disent qu'il faut qu'on arrête d'intervenir, elles ont raison sur le fond. Bon, ça ne va pas faire d'effet. Elles ont raison sur le fond. C'est-à-dire que derrière tous ces mouvements en Amérique latine, il y a évidemment les interventions des États-Unis et du commandant américain pour le continent. Bon, on en est là. Je regarde parce que les heures passent, le temps passe. Je reviens à une intervention qui a eu lieu hier et qui est de très grande qualité. C'est M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères donc russe, qui a pris la parole hier donc au Conseil de sécurité. Pour faire le point, pour la situation pour l'Ukraine. Et alors, il fait le point avec beaucoup de clarté et il met, j'allais dire, les points sur les i, s'il était encore nécessaire que ça le fût. Mais c'est bien que ça soit reproduit parce qu'il dit des choses très, très importantes et qui méritent d'être entendues et que vous n'entendrez pas, probablement pas, sur les chaînes publiques. Il dit. Alors, voilà. Vous propagez des faux slogans selon lesquels l'effondrement du régime de Vladimir Zelensky constituerait une menace existentielle pour les Ukrainiens que la Russie veut asservir. Pour ceux qui ont compris la genèse de la crise ukrainienne, il est évident qu'il n'y a pas une goutte de vérité dans ces déclarations. La Russie a lancé une opération militaire spéciale en février 22, non pas contre l'Ukraine, ni contre le peuple ukrainien avec lequel nous entretenons toujours des liens fraternels. Ce n'est pas un hasard si près de 7 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Russie depuis 2014. Écoutez bien, 7 millions d'Ukrainiens.
Ouais, c'est déjà pas mal. Hein,
sur une population qui, en 2014, devait être autour de 40 millions d'Ukrainiens. Ouais. Hein. Alors si vous comptez en plus ceux qui sont passés de l'autre côté, vers l'ouest, ne fût-ce qu'en Pologne et même au-delà, il reste plus grand monde. D'où les mercenaires français. Enfin, c'est une goutte d'eau, mais parce qu'il n'y a plus personne pour faire la guerre, il n'y a plus de volontaires. Et il ajoute l'avant. Nous avons été contraints de lancer une opération militaire contre un régime criminel qui a été présomptueux par sentiment d'impunité et qui n'a pas voulu, malgré nos nombreux efforts de longue haleine, abandonner la guerre contre ses propres citoyens dans le sud, le sud-est de l'Ukraine, et la politique de discrimination totale à l'encontre des Ukrainiens russophones qui sont encore majoritaires dans ce pays. Je souligne, parce que vous savez que M. Zelensky lui-même a un très mauvais accent ukrainien parce que ce n'est pas sa langue. Hein. Bon, ça. Alors, et il ajoute, cela a été fait par le régime Zelensky en violation non seulement des accords de Minsk, approuvés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors Lavrov, il dit ça devant le Conseil de sécurité. Messieurs, vous avez approuvé les accords de Minsk et vous n'avez rien fait quand ils ont été piétinés. Et vous n'avez même pas poussé des cris quand Mme Merkel et M. Hollande ont dit « Ah, mais c'était uniquement pour gagner du temps. Hein. » Alors, on se moque de vous ouvertement des chefs d'État, des chefs de gouvernement de pays qui ne sont pas des petits pays quand même, l'Allemagne et la France, et vous ne bougez pas, hein, vous êtes inerte, amorphe, tout. Alors lui, il vient d'entendre leur rafraîchir la mémoire, et il fait bien, mais ils ont la mémoire manifestement courte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Le paquet, Minsk, il en parle très bien. Il dit d'autres choses. Alors, il parle justement de l'agriculture, j'évoquais ça. L'agriculture, donc, ukrainienne, entre guillemets. L'un des exemples les plus frappants de la production de sol, de les terres noires, les fameuses terres noires de l'Ukraine, par les structures de Georges Soros, pour l'enfouissement des déchets de l'industrie chimique occidentale. Vous voyez jusqu'où on va. Alors, ça va faire réagir Roselyne, parce qu'on est tout à fait dans le cas de l'Afrique. Quand il y a des déchets chimiques des industries occidentales, eh ben Soros a trouvé un arrangement pour les enfouir sur le sol ukrainien. Ah, vous êtes, vous êtes sous notre coupe, on fait ce qu'on veut chez vous, on est chez nous, vous êtes d'ailleurs même plus chez vous, hein, vous êtes sur une espèce de 52e République des États-Unis, toutes les cochonneries de notre industrie, on va vous les mettre dans votre sol, hein, qui est un sol particulièrement fertile et extraordinairement riche. Bon. Alors, et il ajoute, parce que, alors ça c'est étonnant, parce que même Blinken se laisse aller, enfin Blinken, je ne pense pas que ce soit une lumière, il dit, Monsieur Blinken a souligné que la poursuite de l'aide à l'Ukraine est une garantie de création de nouveaux emplois aux États-Unis. Si, parce que ça fait travailler des entreprises américaines, puisque l'Ukraine est une colonie américaine. Donc, il y a quelque part des entreprises américaines, avec quelques personnes sur place qui sont les pauvres Ukrainiens qui font le boulot à la base. Et puis derrière, il y a l'état-major, les cadres et tout, qui sont aux États-Unis tranquillement pour récolter les bénéfices. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, on ne nous l'explique pas trop. Et alors, il ajoute, et ça, on devrait l'écouter un peu plus. Il est probablement temps pour les Européens de se réveiller et de se rendre compte qu'avec l'aide du régime de Vladimir Zelensky, les États-Unis ne mènent pas seulement une guerre contre la Russie, mais résolvent également la tâche stratégique d'affaiblir fortement l'Europe en tant que concurrence économique.
C'est sûr, voilà. C'est évident.
Alors, ça, il pourrait le dire tous les jours sur les ondes de France Inter, de Radio France, etc. On ne lui laisse pas le faire, mais c'est ça qu'il faut qu'on entende. Washington a sapé sa sécurité énergétique, celle de l'Europe, provoquant des tendances de crise dangereuses dans l'économie et la sphère sociale européenne. voyez les prix du gaz et de l'électricité. Je ne m'attarderai même pas sur le sujet des attaques terroristes contre les gazoducs Nord Stream. Les États-Unis bloquent fermement toute tentative de mener une enquête internationale honnête et les dirigeants européens actuels, en particulier en Allemagne, se taisent docilement, résignés à l'humiliation politique. Voilà, alors tout ça, et puis il ajoute bien entendu la poursuite des hostilités et des combats sur le sol ukrainien videront les arsenaux qui seront évidemment réapprovisionnés par les entreprises du complexe militaro-industriel des États-Unis, parce qu'effectivement, c'est pas parce que la France a augmenté cocorico la cadence de production des canons César dans l'usine de Roanne que ça va changer fondamentalement les données de la guerre. Donc effectivement, le gros du rachat de matériel se fera auprès des firmes américaines qui dominent le marché. Il ne restera pas grand-chose pour les autres. Voilà, j'ai pas tout dit, mais l'heure est passée. On va finir par le petit enregistrement que j'avais gardé. Vous savez donc qu'en 1959, le 1er janvier, les Cubains ont pris le pouvoir. La révolution cubaine a gagné. Et donc les castristes, Castro à leur tête, sont arrivés à La Havane en triomphe. Et ils ont ensuite monté une opération qu'on appelle l'opération de Verdad, l'opération Vérité, qui est une opération sur les médias, consistant à dire... à la population cubaine pour commencer, tous les médias internationaux ne disent pas la vérité sur ce qui se passe chez nous. Et on a là un petit extrait du discours que Castro prononce en public sur la grande place de La Havane à propos de l'opération Verdad, l'opération Vérité, où il dit, et vous allez l'entendre en espagnol, mais je vous dis ce qu'il dit, en fait, peu importe ce qu'on dit de moi au Sénat des États-Unis, peu importe ce qu'on dit de nous à Washington, peu importe ce qu'on dit de nous partout, ce qui compte, c'est que vous, peuple cubain, vous me compreniez. Je n'ai, et il insiste, très important, il le dit en espagnol, je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à vous, peuple cubain, à vous, les peuples. Je n'ai aucun compte à rendre aux autres. Et ça renvoie à une disposition politique des États-Unis qui est permanente. C'est ce qu'ils appellent les Accountability Act. C'est-à-dire, très régulièrement, dès qu'un pays est dans le collimateur des États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants votent un Accountability Act. Ça veut dire, je considère que tel pays doit me rendre des comptes. C'est-à-dire que les États-Unis, juge suprême de la morale internationale, dit « je désigne ce pays, il doit me rendre des comptes, ça veut dire que je méfie de lui, je lui veux du mal. Par contre, qui peut demander des comptes aux États-Unis ? Personne, puisque les États-Unis sont au-dessus de tout ça. Ben, si nous, à Comaguerre, on demande des comptes aux États-Unis, mais on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de gens maintenant dans le monde entier qui demandent des comptes. » Alors, juste un élément de réflexion. En 1959-1960, quand Cuba prononce ce discours, il y a, écoutez bien, 5 milliards d'habitants sur la planète. 5 milliards. Maintenant. Aujourd'hui, il y en a 3 milliards de plus. Et ces 3 milliards-là se mettent à parler. Et cette voix, on ne pourra pas l'étouffer. Voilà ce que j'allais dire pour conclusion. Puis on écoute Castro qui dit « Je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à mon peuple. » Ouais. Voilà. Merci, Roselyne.
Los que creyeron que a través del monopolio de los cables internacionales, los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a debilitar nuestra revolución, iban a desacreditar a nuestro pueblo para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil, se equivocaron. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún congresista de los Estados Unidos. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún gobierno extranjero. Yo le rindo cuenta a los pueblos. Yo le rindo cuenta en primer lugar a mi pueblo, al pueblo cubano.